nous avons un entretien sur la présence réelle dans l'Eucharistie à la demande de parents à l'armée concernant cette histoire de présence réelle.
Il y a déjà une chose qui est évidente, c'est les interviews qui sont faites et qui sont publiées par exemple dans les périodiques chrétiens.
Oui, c'est ça, oui.
Et qui donnent un pourcentage invraisemblable de gens qui vont communier et qui ne croient pas à la présence réelle,
oui.
Tout en allant communier.
Oui, oui.
Alors ça, c'est quelque chose de
paranoïaque. Oui, mais alors ceux qui disent qu'ils ne croient pas à la présence réelle ne sont pas les plus dangereux, parce que ceux-là avoue franchement qu'il y a un problème pour eux qui ne croient pas à la présence réelle. Ce qui est dangereux, c'est toute une offensive théologique qui prétend réinterpréter la présence réelle en des termes tels qu'il n'y a plus de présence réelle. Et la théologie classique à propos de l'Eucharistie parlait de transsubstantiation, en disant la substance du pain est transformée dans la substance du corps du Christ, et la substance du vin est transformée dans la substance du sang du Christ. Alors, à travers le mot « substance » et une critique de cette expression, comme impliquant une philosophie un peu spéciale, la philosophie particulière, la philosophie de saint Thomas et la philosophie des scolastiques, la philosophie d'Aristote, qui n'a rien à voir avec le christianisme, alors on attaque la transsubstantiation, et en attaquant la transsubstantiation, alors on veut donner à la présence réelle. Le catéchisme hollandais a fait ça en particulier, il a parlé de transfinalisation plutôt que de transsubstantiation, enfin il y a tout un bazar qui fait que ça devient du macaroni dans l'esprit des gens. Alors, je vais, dans un premier temps, je vais relever le défi d'essayer de vous expliquer la présence réelle sans faire appel à la transsubstantiation, ni même au mot de substance. Et nous allons commencer par quelque chose d'aussi simple et clair que possible, d'aussi élémentaire, à mon avis, de dogmatique, en le sens que ça engage la foi, et qui est un test comme la teinture de tournesol, je l'ai déjà dit à une réco d'Arthur d'ailleurs, un test comme la teinture de tournesol pour savoir si quelqu'un croit ou ne croit pas à la présence réelle. Alors, en termes de sens commun, et sans aller chercher la signification de la chose, sa mystique, sa théologie, rien. Tout bêtement, la question que je pose, elle est double. Il y a deux questions qui permettent de s'y reconnaître, de savoir si la foi des gens est correcte à ce sujet. Une fois que le prêtre a consacré, est-ce qu'il y a encore du pain ? Une fois que le prêtre a consacré le précieux sang, est-ce qu'il y a encore du vin ? Ou est-ce que on doit dire il n'y a plus de pain ? Le pain a disparu, le vin a disparu, et à la place du pain, il y a le corps du Christ, et à la place du vin, il y a le sang du Christ. Vous voyez, j'ai pas employé de mots barbares, j'ai pas employé de... Et j'ai défini le dogme eucharistique en telle sorte que si quelqu'un me dit « oui, je crois fermement qu'il n'y a plus de pain, et qu'il n'y a plus de vin », je lui en demande pas plus. Condition, bien entendu, qu'il confesse par ailleurs qu'à la place du pain, il y a le corps du Christ, à la place du vin, je ne vois pas de difficulté, c'est... ça vous paraît net. Vous y croyez. Bon. Alors, sachez que dans l'histoire de l'Église, il y a eu une théorie, déjà, bien avant les temps modernes. Je ne sais pas si elle a été soutenue par Luther. J'ai entendu dire que si. En tous les cas, elle a existé, et qu'on appelle la théorie de l'impanation. Consistant à dire que la présence réelle du corps du Christ est aussi forte que ce que nous affirmons, mais sans détruire pour autant le pain. Autrement dit, le Christ, le corps du Christ, vient s'insérer avec toute la présence réelle, dans toute sa force, dans le pain, qui reste du pain. Mais il y a en plus le corps du Christ. Et c'est ce qu'on appelle la théorie de l'impanation. Alors, en fait, dès qu'on admet ça, justement, on pose la question que les modernes posent aujourd'hui, et il n'y a pas de réponse claire, on se demande, mais alors qu'est-ce que c'est que cette présence du corps du Christ ? Il faut la distinguer de la présence de mon trousseau de clé, parce que c'est une présence mystique et mystérieuse, c'est pas une présence aussi bête et aussi physique que mon trousseau de clé. Il faut la distinguer aussi de la présence de Dieu qui est partout dans le monde, sans quoi il n'y a pas de raison qu'on se fatigue à et que le Christ se fatigue à instituer l'Eucharistie si c'est simplement pour aboutir à une présence de Dieu qui est celle qu'il y a déjà depuis le début dans le monde. Il faut la distinguer de la présence de la grâce, parce que la présence de Dieu dans l'âme des justes, la présence de Dieu qui habite au fond de notre cœur, elle a existé dans Abraham, dans Noé, dans tous les saints, dans tous les martyrs, et il n'y avait pas l'Eucharistie. Et inversement, un sacrilège peut très bien consommer les saintes espèces, et il reçoit et il mange vraiment la chair du Christ, mais pour sa condamnation, disent les bons auteurs, enfin en tous les cas, c'est pas bon pour lui de manger le corps du Christ, ça ne lui donne pas les fruits de la grâce, et cependant il y a la présence réelle d'une certaine façon. Donc il faut distinguer cette présence de toutes ces présences-là, c'est pas commode, et alors ça devient complètement insoluble si en plus il faut dire que cette présence ne change rien à la présence du pain. Tandis que moi je répondrais clairement, si quelqu'un me demande « Mais qu'est-ce que c'est que cette présence que vous appelez la présence réelle ?» Je réponds, c'est pas la présence de Dieu, c'est la présence du corps du Christ. Mais qu'est-ce que c'est que cette présence du corps du Christ? Ben, c'est une présence telle qu'elle chasse le pain. Qu'elle est incompatible avec la présence du pain. Autrement dit, c'est une présence analogue à la présence du pain, mystérieusement différente, bien sûr. C'est pas aussi bête et aussi limité que la présence du pain. La preuve, c'est que le même corps du Christ peut être ailleurs à des milliers de kilomètres si on dit la messe ailleurs. Donc il a incontestablement des privilèges dans l'Eucharistie. Je ne parle pas des privilèges de son corps glorieux, je parle des privilèges de cette présence eucharistique due à la messe. Ah, c'est des privilèges spéciaux, cette présence est incontestablement très mystérieuse, mais elle a ce réalisme d'exclure la présence du pain. Exclure, et non seulement la présence, mais la réalité du pain. Il n'y a plus de pain parce que le corps du Christ prend la place. Voilà comment je définis la présence réelle. Vous voyez que c'est pas compliqué. Alors, j'y ajoute une précision qui est aussi importante, et alors là, qui a été formellement niée par les protestants, et à partir de laquelle tout est par terre, secrètement et très rapidement, si on ne l'admet pas, toujours sans explication philosophique, vous voyez que je n'ai pas employé le mot substance, et encore bien moins transsubstantiation. Alors j'y ajoute cette précision, que pour réaliser ce mystère, mais qui est en même temps un miracle, et pourquoi je dis miracle? Parce que le pain disparaît, ce qui n'est quand même pas ordinaire, et qui n'est pas simplement un mystère analogue à la vie du Saint-Esprit qui envahit mon âme, ça c'est très mystérieux, mais c'est pas à proprement parler miraculeux, c'est un don de Dieu, mais ça ne renverse pas les lois ordinaires de la nature, tandis que la disparition du pain, oui. Vous voyez, c'est quand même un truc qui n'est pas ordinaire. Eh bien, pour opérer ce miracle, qui est en même temps un mystère, un miracle qui est ordonné, subordonné à un mystère, à savoir la vie du Christ en moi, de par la communion, il faut un homme qui n'est pas comme les autres, et qui a le pouvoir d'opérer ce mystère, et c'est la définition du sacerdoce. L'évêque n'a que la plénitude du sacerdoce, en sens qu'il peut faire d'autres prêtres, c'est le pouvoir épiscopal original, mais le pouvoir de l'évêque et du prêtre, c'est le pouvoir eucharistique, le pouvoir de, justement, transformer le pain dans le corps du Christ, en sorte qu'il n'y ait plus de pain, mais qu'il y ait à la place le corps du Christ. Voilà. Alors ça, c'est la foi. Et ceux qui racontent des histoires telles que ces deux points-là sont atténués, qu'il n'y a pas forcément besoin d'un prêtre avec une consécration et un sacrement spécial qui s'appelle le sacrement de l'ordre, eh bien, toute la vaisselle est par terre, et la réalité de la présence du corps du Christ est par terre. Voilà. Bien. Alors, d'une certaine manière, cet entretien est terminé, mais on va tout de même ajouter quelques petites considérations qui, alors là, pourraient nous entraîner pendant longtemps dans des dégagements énormes. Premièrement, quel est l'intérêt de la présence réelle? Vous voyez, je parle toujours pas de substance et de transsubstantiation. Quel est l'intérêt de la présence réelle? Pourquoi est-ce que le Christ a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a inventé cette chose étrange de remplacer par son propre corps un morceau de pain, et de remplacer par son propre sang un peu de vin? Pourquoi? Alors ça, il le dit clairement dans l'Évangile, pour que l'on puisse manger son corps et boire son sang. Alors j'ai dit dans la lettre numéro 24 que ça répond à un mystère extrêmement vertigineux, que j'appelle un mystère eschatologique, en ce sens que dans le royaume des cieux, dans l'au-delà, une fois acquise la résurrection de nos propres corps, il n'y aura plus d'Eucharistie, il n'y aura plus la messe, mais il y aura entre le corps glorieux du Christ et son sang glorieux, car je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas de cela, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que c'est qu'un corps glorieux, Mais à partir du moment où le prêtre dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, et où il nous est dit par la foi de l'Église que nous buvons aujourd'hui et demain le sang du Christ, c'est que ce sang du Christ existe même sous une forme glorieuse. Alors, entre donc le corps et le sang du Christ glorieux, d'une part, et puis nos corps glorieux et peut-être notre sang glorifié, d'autre part, il existera des relations telles qu'on pourra dire, alors ça c'est ma théologie à moi, c'est ma conviction à moi, mais si on ne l'accepte pas, on ne peut pas comprendre clairement ce que signifie la splendeur de l'invention du Christ disant « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle ». Vous allez voir pourquoi, alors là je reprends le thème de la lettre numéro 24, mais en l'expliquant un peu. Quand nous serons ressuscités, il y aura donc entre le corps du Christ et nous des relations d'intimité fantastique. Et des relations d'intimité spirituelle, surnaturelle, trinitaire, c'est la vie trinitaire dont la plénitude habite dans l'âme et le corps du Christ, qui ruissellera également dans notre âme et secondairement dans notre corps. C'est cette vie trinitaire qui sera la gloire de l'âme, laquelle savourera cette gloire par la vision face à face et par la charité parfaite, c'est cette vie trinitaire dont la gloire rejaillira dans chacun des corps ressuscités et qui les rendra lumineux de la lumière même des justes qui resplendiront comme des étoiles, dit la Bible, et qui est la lumière du Christ dont les apôtres ont eu d'ailleurs un avant-goût à la transfiguration et certains, eh bien, tel ou tel avant-goût après Pâques au cours des apparitions pascales. Eh bien, nous aurons la même lumière. Et entre nos corps et celui du Christ, il y aura donc une intimité, qui sera donc l'intimité trinitaire, mais qui ne sera pas seulement l'intimité trinitaire. Voilà ce que je veux dire. De même que dans le Christ, il n'y a pas que l'intimité trinitaire, il n'y a pas que la vie trinitaire, sans quoi il ne serait pas homme, il ne serait pas vrai homme. Il y a une vie humaine, béatifiée, glorifiée par la Trinité, mais humaine. Et on ne peut pas dire que Dieu soit homme dans l'éternité. Il a toute la perfection de l'homme, mais il n'a pas les limites et la pauvreté d'un homme. Tandis que le Christ aura éternellement, il a éternellement pour toujours une nature humaine avec ses limites et sa pauvreté, glorifiée sans doute, mais sa pauvreté qui lui appartient en tant qu'homme et qui n'appartient pas à Dieu. Hein ? Il aura donc bien deux natures dans sa personne de Verbe. Et donc il y a autre chose que la vie divine en lui, puisqu'il y a une vie humaine. Glorifié par la vie divine, mais il y a une vie humaine. Et en particulier, il y aura une vie corporelle glorieuse, bien sûr, mystérieuse, tout ce que vous voulez, mais une vie corporelle qui gardera sa consistance. Autrement dit, moi, je n'accepte pas de penser un instant que les yeux corporels du Christ ne verront pas les yeux corporels de Marie, et que les yeux corporels de Marie ne verront pas les yeux corporels du Christ, que leurs visages ne se contempleront pas. Ça servirait à quoi de parler de résurrection des corps si on ne doit pas aller jusque-là dans le réalisme du corps, hein ? Ça va de soi. Alors là, c'est pas de foi de manière stricte, c'est très proche de foi, parce que c'est très proche du dogme de la résurrection des corps. Vous voyez ce que je veux dire? Qui perd toute signification et toute consistance et tout intérêt, si ces corps-là doivent être aveugles. Et s'ils doivent se voir uniquement dans la lumière de Dieu. S'il n'y a pas besoin de corps pour avoir la lumière de Dieu, il suffit d'être un ange, ou même d'être Dieu. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que non seulement le corps de Jésus et de Marie, ils se verront, ils s'entendront, mais ils se mangeront. Voilà le mystère eschatologique que le Christ affirme quand il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, j'en sais rien. Ça veut dire quelque chose que Bossuet évoque quand il dit que les amants ont envie de se dévorer l'un l'autre. Je crois que c'est vrai, il y a un désir d'intimité substantielle, alors là, je prononce le mot pour la première fois, mais à propos de l'amour, n'est-ce pas, de se dévorer, d'atteindre la substance de l'autre, et j'ai dit une fois justement que l'amour chez les hindous, bon, peut-être très violent, mais quand il est doux, eh bien, il n'a pas cette violence, justement, qu'on trouve dans l'amour courtois, l'amour chrétien, où tout en étant doux et humble, on a quand même envie d'atteindre la substance de l'autre, de l'assimiler, et où on a envie de se dévorer par amour. Bon, eh bien, se dévorer par amour, c'est pas simplement se dévorer moralement, c'est de se dévorer substantiellement, voilà le mot qui arrive, et se dévorer substantiellement pour des êtres humains, c'est se dévorer charnellement. Par conséquent, le Christ et Marie se dévoreront charnellement l'un l'autre, selon une modalité que je ne connais pas, mais que j'appellerai un mystère eschatologique de l'ordre des corps glorieux. Et alors, l'invention de l'Eucharistie, c'est justement cette chose extraordinaire qui permet que, bien, c'est normalement ce petit exercice qui consiste à manger le corps glorieux du Christ et boire son sang, est réservé au corps glorieux. Seul un corps glorieux peut entrer avec un autre corps glorieux dans cette intimité originale que j'appelle manger le corps et le sang et boire le sang de l'autre. N'est-ce pas ? C'est chose que d'ailleurs les horreurs diaboliques, les vampires pressentent et désirent d'une manière diabolique à la fois. Hein ? Eh bien, nous sommes normalement à la porte de ce mystère parce que nous n'avons pas de corps glorieux et qu'un corps glorieux, ça ne mange pas, si ce n'est diaboliquement justement, ça ne mange pas un corps glorieux, un corps non glorieux, je veux dire, un corps de misère comme le nôtre, normalement ne peut pas manger le corps du Christ et boire son sang. Et alors c'est là que intervient l'invention de l'Eucharistie. À travers l'apparence du pain, ce bruit est une clé que nous pouvons manger en tant qu'apparence, dans la mesure où le pain garde son apparence, mais tout en perdant sa réalité. Eh bien, nous pouvons réellement, mais en goutte à goutte, petit à petit, subtilement, secrètement, inaugurer avec le corps du Christ cette relation de l'ordre du royaume des cieux, c'est pour ça qu'on l'appelle eschatologique ou glorieuse, qui s'appelle manger le corps glorieux du Christ, comme si nous avions déjà, nous, un corps glorieux. Et c'est tellement vrai que, du fait que nous mangeons le corps du Christ qui est glorieux, et que nous buvons son sang qui est glorieux, et que nous inaugurons ce mystère eschatologique dans l'Eucharistie, notre corps devient glorieux lui aussi petit à petit. Nous sommes progressivement, c'est ce que j'ai appelé la glorification lente, glorifiés par cette mendication eucharistique. Vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire comme perspective, mais ça suppose, bien entendu, que le pain ne soit plus du pain, mais le corps glorieux du Christ, et que le sang ne soit plus du sang, mais le sang du Christ. Ça c'est sûr, si on fait sauter ça, il n'y a plus ce mystère du tout. Voilà, après ce que je viens de dire là, la conférence pourrait, la causerie, pourrait de nouveau terminée, se reporter à sa lettre 24 habituelle. Je vais tout de même ajouter une autre chose, parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses à ajouter, mais dans la ligne de la notion de la présence réelle, et alors là je vais amener le mot substance, c'est que je vais amener une objection. Et c'est à partir de cette objection qu'on va être obligé de parler de substance. C'est ça que je voudrais faire comprendre alors aux parents et aux enfants et aux éducateurs qui ne veulent plus entendre parler de la substance et qui, je suppose, auraient accepté ce que je viens de dire jusqu'à présent. Tout au moins accepté la première partie. La deuxième, ça peut leur paraître un peu loufoque et vertigineux. Ils peuvent le récuser tout en croyant la présence réelle, mais à ce moment-là, je leur poserai moi la question, quel intérêt ? Bien. Alors, je suppose donc que quelqu'un qui croit ou ne croit pas à ce que j'ai dit sur les corps glorieux, du point de vue où je me place maintenant, peu importe, mais qui croit vraiment, alors que, qui admet qu'en effet, c'est bien la foi chrétienne de dire, il n'y a plus de pain, il y a le corps du Christ, il n'y a plus de vin, il y a le sang du Christ, il admet ça. Ben, il y a une objection. Ben oui, mais c'est tout de même bien étrange, parce que en apparence, ça reste du pain, et en apparence, ça reste du vin, et une apparence qui a une très grande importance, parce que c'est grâce à cette apparence, d'être du pain et mangeable comme du pain, d'être du vin et potable comme du vin, que je peux manger le corps du Christ en accomplissant un acte qui, dans ma vie humaine quotidienne, alors, et non pas au niveau eschatologique où je me plaçais tout à l'heure, mais dans ma vie toute bête, s'appelle manger, si j'en crois ce que vous avez dit mon père, je mange apparemment du pain, et en réalité je mange pas du pain. Je mange le corps du Christ, qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette apparence qui me donne l'illusion de manger du pain et de boire du vin ? Et la preuve que cette illusion est très ferme, c'est que quand le vin est mauvais, on s'en aperçoit. Bien, ça ne change rien, la transubstantiation, la présence eucharistique, le fait que ce soit plus du vin, n'empêche pas que c'est un fait. Et au goût, j'entends. Et au contraire, si c'est du très bon vin, eh bien, on s'en aperçoit aussi, ça reste aussi bon qu'avant, la conversion eucharistique, la présence réelle ne change rien à ses apparences. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a tout un aspect de la théologie chrétienne qui dit que le pain et le vin ne sont plus que des apparences. Mais ce sont des apparences qui vont loin, puisqu'elles permettent d'avoir l'illusion de manger du pain et l'illusion de boire du vin, Et la réalité qui se cache derrière ce pain, c'est le corps du Christ. Et la réalité qui se cache derrière l'illusion de manger du pain, c'est qu'on mange le corps du Christ, mais on ne sait pas bien ce que ça veut dire. La réalité qui se cache derrière l'illusion de boire du vin, c'est qu'on boit le sang du Christ, mais on ne sait pas non plus bien ce que ça veut dire. Alors, on peut me dire, mais enfin, c'est quand même bizarre, cette apparence du pain. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et c'est ici qu'intervient la théologie et la nécessité de parler de la substance. Voilà. C'est à partir du moment où, vous voyez, là, c'est pas absolument requis, mais dès qu'on cherche à comprendre, ça devient immédiatement requis. Dès qu'on se dit, enfin, qu'est-ce que c'est que ce changement qui ne change rien en apparence et qui change tout en réalité? Quel rapport est-ce qu'il y a entre cette apparence de pain que j'ai sous le nez et puis la réalité de ce qui était du pain et de ce qui est devenu le corps du Christ? Comment ça s'arrange tout ça? Alors là, vous allez voir pourquoi nous sommes obligés de parler de quelque chose qu'on n'est pas obligé d'appeler substance, mais qu'il va bien falloir appeler d'un mot qui revient au même. C'est que ce qui se produit, c'est un changement analogue, je dis analogue, mais c'est pour essayer de vous expliquer. C'est analogue parce que c'est encore plus fort, mais c'est au moins aussi fort que ce qui se produit au moment de la naissance ou de la mort. Voilà un homme qui est en train de mourir. Eh bien, que dit la philosophie la plus saine? C'est que pendant un certain temps, au moment où il vient de mourir, ce n'est plus un homme. Sinon, c'est qu'il n'est pas mort. Un homme mort, vraiment mort, soit qu'on croit à l'existence de l'âme séparée du corps, soit qu'on n'y croit pas, de toute façon, quand il voit où il est mort, son cerveau ne fonctionne plus, ce n'est plus un homme. Exactement comme un appareil, comme celui que j'ai sous le nez, une fois qu'il est cassé, ce n'est plus un appareil. S'il est démoli, ce n'est plus la même chose. C'est un ensemble de molécules, mais ça n'a pas cette espèce d'organisation originale qui fait que c'est un homme et tel homme. Bon. Mais, on pourrait imaginer, dans un film macabre et humoristique à la fois, je crois que Charlot fait quelque chose de ce genre dans Une vie de chien, où il assomme un type qui est en train de boire. Il se met derrière lui, et il est en train de boire comme je suis assis à la table là, puis il a un partenaire en face qui est en train de boire, dans un café, et c'est au premier étage, et ils sont dans une petite loge avec un rideau. Charlot se met derrière le rideau, et pour des raisons qui lui sont personnelles, il assomme le mec qui boit. Mais il n'a pas du tout envie que celui qui boit avec lui s'en aperçoive. Alors, il se glisse derrière les bras du type, et il le fait agir comme un pantin, comme s'il n'était pas évanoui alors qu'il est évanoui. Le type n'est pas mort, mais il est évanoui. Mais on pourrait imaginer qu'il le tue, et alors là ça deviendrait franchement macabre, mais enfin on pourrait imaginer ça, qu'il le tue vraiment, et puis qu'il continue à le faire fonctionner comme s'il était vivant. À ce moment-là, le type en face aurait l'apparence d'un homme sous le nez, puisqu'il fonctionnerait comme un homme, et ce serait un pantin, ce serait un mannequin, ce serait pas un homme, de même qu'un automate pourrait ressembler à un homme et ne pas être un homme. Eh bien, quand un homme vient de mourir, ça n'est pas plus un homme qu'un automate. C'est peut-être un vivant, parce qu'il est fait de cellules vivantes, il y a tout un métabolisme de la décomposition, d'ailleurs, de la putréfaction qui intervient. Immédiatement, d'ailleurs, ça commence. Mais, c'est pas un homme. Et ça en a l'air, surtout si on s'amuse à le faire bouger. Ça en a l'air. L'apparence demeure. Mais quelque chose a disparu, alors c'est là que les philosophes ont donné un nom à ce quelque chose qui fait qu'un homme est un homme, et qu'on appelle la substance. La mort est un changement substantiel. Et la naissance est aussi un changement substantiel. Avant que l'enfant ne soit un homme, et qu'il ait une âme dans la perspective chrétienne, spiritualiste, eh bien, c'est une partie du corps des parents. Mais dès que l'enfant est constitué, ce n'est plus une partie du corps des parents, c'est un troisième vivant. Donc, le passage d'une cellule, d'un spermatozoïde, tout ce que vous voudrez, qui est une partie du corps des parents, à un vivant qui est distinct des deux parents, c'est un changement substantiel. Voilà, c'est là qu'on devient le mot substance. Et alors, un changement substantiel peut ne pas être spectaculaire, alors que certains changements spectaculaires peuvent être substantiels. Si j'assomme un bonhomme comme Charlot le fait, eh bien le bonhomme ressemble à un mort, et cependant le changement n'est pas substantiel, parce qu'il vit encore, c'est toujours un homme. Donc changement spectaculaire qui n'est pas substantiel. Inversement, au moment de la naissance, on voit rien. Au moment, plutôt au moment de la conception, au moment où le troisième vivant intervient, n'y a aucun changement accidentel au niveau des apparences. C'est ce qu'on appelle l'accident. Je peux grandir, je peux devenir bête, je peux devenir méchant, je peux devenir intelligent. Un petit garçon passer de Joston à un vieillard chenu, c'est tout de même un gros changement. Si le changement était brutal, on dirait oh là là, hein. Bon, quel changement au niveau des apparences, quel changement au niveau des accidents. C'est pas un changement substantiel, ce serait toujours le même homme. Vous voyez. Tandis que le changement, au fond, de mort et encore plus de naissance, est beaucoup moins spectaculaire que le changement de Joston à un vieillard chenu. C'est beaucoup moins spectaculaire, c'est beaucoup moins extraordinaire au plan des accidents. On voit presque rien. Et au moment où un mort meurt, on se demande est-il mort, parce que c'est très subtil. Il est immobile, oui, mais est-il dans le coma, est-il mort? Le passage entre un homme dans le coma et un homme mort est rigoureusement invisible, sans appareil, tout au moins immédiatement. Au bout des certains temps, la putréfaction jouant, alors là, on voit des différences au niveau des accidents. Mais la différence substantielle en elle-même est invisible. Alors, c'est de cela que la philosophie et la théologie scolastique se sont emparées pour dire, bon, ben, la transformation eucharistique est la transformation substantielle, c'est la substance du pain qui est changée, c'est pas les accidents, puisque les apparences sont les mêmes. Voilà. Et quant aux accidents du Christ, on les voit pas. C'est strictement invisible. Alors voilà pourquoi on appelle ça une transubstantiation. C'est comme une sorte de transformation substantielle du pain dans le corps du Christ. Voilà.
Le fait pour un homme d'absorber, de manger le corps du Christ,
oui,
de boire son sang,
oui,
le transforme nécessairement.
L'homme. Ah, faut distinguer. S'il le reçoit avec fruit, oui. S'il le reçoit sans fruit, ça le transforme, mais je dirais presque plus par accident que par essence. Parce que s'il le reçoit sans fruit, c'est-à-dire s'il n'est pas en état de grâce, et qu'ainsi il ne permet pas au corps du Christ présent en lui, et alors manger, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, je sais encore moins que pour l'ordre eschatologique. Enfin, il y a certainement une espèce de contact électrique redoutable entre le corps glorieux du Christ et le corps de l'homme en état de péché mortel qui venge le corps du Christ. Il y a quand même un arc électrique qui se produit, qui est redoutable, mais qui est avorté dans ses effets suprêmes, qui est de faire de nous les sarments et de vigne de Jésus-Christ, par le péché mortel. Alors là, le changement voulu, tout au moins par Dieu, n'a pas lieu. Mais alors, il y a des changements accidentels qui ont lieu, c'est que le démon, c'est quand même un péché grave qu'il commet. Mais la vraie transformation, c'est tout simplement qu'on se rapproche de cet état où on sera un membre du corps du Christ, analogue au sarment d'une vigne. Voilà, le vrai changement, c'est qu'on se rapproche des corps glorieux. Oui, ça c'est vrai. Une glorification lente, c'est ça, la transformation réelle, ultime, provoquée par l'Eucharistie. Un pauvre pécheur. Ah ben, il a une intention droite, il est en état de grâce, par conséquent, ça le transforme, ça le glorifie. Lui aussi, il n'y a pas de pauvre pécheur qui tienne, au contraire. Ça aide le travail d'être misérable, parce que, en insistant sur pauvre, à ce moment-là, hein. Oui, ça ne change rien. On est en état de grâce ou on l'est pas, et pour c'est pas le fait d'être un beau pécheur qui empêche d'être en état de grâce. Si on a une intention droite, si on est humble, si on demande pardon, si on fait ce qu'il faut, ça n'empêche rien, c'est seulement s'il y a de l'orgueil. Ah, alors là, c'est autre chose. Il y a un orgueil qui fait obstacle à la foi et à la contrition nécessaire pour que la charité parfaite entre. Enfin, la charité, pardon, pas la charité parfaite. Pour que la charité entre, charité théologale.
Alors, il y a un petit quelque chose que peut-être que j'aurais bien aimé vous entendre développer, c'est que quand nous mangeons le corps du Christ,
oui.
Vous avez dit plusieurs fois, dans plusieurs de vos causeries,
oui,
que ce n'était pas nous, en réalité, qui mangions.
Ah, oui. Alors,
c'est lui qui
mange. Oui. Alors, c'est évident, pour ça que j'ai dit que c'est un rapport mystérieux, dont l'analogie avec le fait de manger est insuffisante. Mais on peut, alors en évoquant certaines façons, certains cas où nous mangeons ou nous buvons certaines choses, avoir une idée de ce que j'ai voulu dire là. Car quand on boit du vin, ou un poison, ou une drogue, bien on peut dire que le poison, le vin ou la drogue s'emparent de mon corps autant que je m'empare de la drogue. et me met dans un état qui est un état d'aliénation, et qui est un état où je suis possédé par la drogue. Eh bien, le corps du Christ est un breuvage de ce genre, sauf qu'il est bénéfique. C'est un breuvage, c'est une nourriture de ce genre, sauf qu'elle est bénéfique. C'est-à-dire qu'elle a des effets tellement puissants dans mon corps, qu'en effet, elle m'assimile, elle me glorifie à la manière dont le corps du Christ est glorifié. Mais c'est tout de même moi qui le mange, au départ. Mais le mystère de cette affaire-là, c'est pas que je ne mange pas, c'est vrai, c'est moi qui mange, mais c'est que la nourriture mangée me mange, selon une notion transcendante à l'idée de manger, elle me dévore en sens qu'elle me transforme en elle. C'est la nourriture absorbée qui m'assimile, et non pas moi qui assimile à mon être humain, la nourriture absorbée, parce que la nourriture absorbée, c'est la gloire du Christ, et cette gloire ne se rabaisse pas, n'est pas rabaissée à ma médiocrité humaine, mais c'est au contraire ma médiocrité humaine qui est brûlée par cette gloire, à la manière, soit j'ai pris cette analogie, dont une drogue m'impose sa manière d'être, m'impose quelque chose qui lui est propre et que je suis un peu assimilé à cette drogue plus que je ne l'assimile. Parce qu'une drogue parfaitement assimilée, ce n'est plus du poison. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un poison? C'est une nourriture mal assimilée, et non seulement mal assimilée, mais qui fait des ravages dans mon corps et dont l'action est plus forte sur moi que l'action de mon corps sur elle.
Toujours le pauvre pécheur, jour après jour, qui mange le corps du Christ,
oui.
Et qui apparemment, là aussi, c'est au niveau des apparences,
oui.
c'est pas très efficace. Efficace, c'est pas très voyant.
Oui, ben alors ça c'est comme pour l'Eucharistie, tu comprends. S'il est fidèle, il y a un changement formidable qui se produit, bien au-delà de ce qu'il peut, attention, de ce qu'il peut expérimenter. Et au contraire, il expérimentera peut-être beaucoup plus sa misère comme effet sensible de cette transformation qu'il ne l'expérimentait avant. Il en souffrira davantage, précisément parce qu'il sentira davantage le hiatus entre cette misère et cette gloire qu'il pressent en creux et négativement, bien qu'elle l'habite de plus en plus. Et précisément parce qu'elle l'habite de plus en plus, il s'en sent loin, mais pour se sentir loin de quelque chose, il faut le sentir au fond. Quand on est vraiment loin de Dieu, on ne se sent pas loin de Dieu. Quand on se sent loin de Dieu, c'est que, d'une certaine manière, on est près de Dieu. Ça peut être la manière du jugement, alors là, passons, sur la terre, en principe, c'est pas cette manière-là. Si on se sent loin de Dieu, finalement, c'est qu'on est près de Dieu. Alors, sans parler que, effectivement, alors, l'infidélité, la tiédeur, la résistance à la grâce peuvent freiner sérieusement. Catherine de Sienne le dit, elle dit, la flamme est la même, mais la bougie est plus ou moins perméable, inflammable. La matière offerte à cette gloire du Christ peut être plus ou moins facile à enflammer. Là, ça c'est vrai qu'il peut y avoir un étouffement sans cet avortement mortel dont je parlais tout à l'heure, mais simplement il peut y avoir un avortement véniel, c'est-à-dire l'Eucharistie produisant pas les fruits que voudrait le Christ, même dans une âme en état de grâce, parce que elle n'est pas assez vigilante, assez fidèle, assez croyante, assez confiante, assez humble, pour que ça produise tous les fruits que Dieu voudrait. Alors là, oui, à ce moment-là, il y a un ralentissement, mais ce ralentissement de ce produit n'a pas du tout pour effet qu'on se sent plus loin de Dieu. Si on se sent loin de Dieu, c'est dans la mesure où on s'en rapproche. Et donc, dans la mesure où on résiste, eh bien, on résiste du même coup à ce sentiment douloureux de se sentir loin de Dieu. Et on dit, occupons-nous d'autre chose. Dans la mesure où on résiste à l'effet de l'Eucharistie, on résiste du même coup à l'envahissement de ces sentiments douloureux d'être loin de Dieu. Bienheureux ceux qui ont faim et soif, de la sainteté, alors avec le sentiment un peu désespéré quelquefois de ne pas pouvoir y atteindre, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés parce qu'en fait, ils sont déjà travaillés par le ferment de la sainteté, et c'est précisément cet état douloureux qu'on peut être tenté de fuir, on peut être tenté de s'en distraire, d'avoir des autres choses à faire dans la vie, et à ce moment-là, eh bien, on souffre moins de se sentir loin de Dieu. Mais on l'est davantage. La vie et les sarments, oui. Ben, ça veut dire qu'il y aura un métabolisme, j'ai employé le mot dans la lettre 24, un métabolisme eschatologique, un métabolisme de l'ordre de la gloire, un échange entre nos corps et le corps du Christ tel que ça constituera d'une certaine manière un seul corps, bien que nous soyons des personnes distinctes. Comme une chaîne, quoi. Quand il disait Mais j'en sais rien, je suis pas à sa place. Je crois qu'il voyait un peu tout, la mort du Christ, mais aussi la gloire, enfin, vous voyez la densité du mystère, je ne sais pas comment. Mais objectivement, la densité du mystère, si elle nous était administrée sans précaution, nous ferait mourir. Ça, Ça, c'est sûr. C'est dans ce but qu'il a inventé l'Eucharistie. Alors, c'est pas étonnant que ce soit insondable pour nous, parce que c'est une invention divine aussi extraordinaire que, si tu veux, quand tu fais une installation bizarroïde et ahurissante, parce que tu veux à tout prix entrer dans en contact secret avec ta bien-aimée, alors tu pour être lié en phonie ou par un circuit de télé, tu inventes des tas de trucs, un bidule inouï que personne n'aurait songé, c'est très compliqué, mais c'est très simple comme but. Bon, ben c'est la même chose, il a voulu faire ce goutte à goutte, il a voulu commencer la glorification sur la terre, dans notre cœur de misère, alors il a inventé un bidule inouï et sur lequel tous les théologiens se cassent les dents, autant que toi, soi-disant.
C'est-à-dire qu'on a la réponse au pourquoi, mais pas au comment, quoi.
Ben, on a quelques notions précises sur le comment, mais qui laissent entier des interrogations stupéfiantes. Mais on a tout de même justement cette affirmation, cette certitude, que c'est un miracle, que c'est une invention divine telle qu'elle bouscule le cours ordinaire des choses, parce que la disparition brutale d'un morceau de pain, au-delà de là que je m'y mette sous la pression de la c'est tout de même pas dans le cours ordinaire des choses, c'est un mystère surnaturel, et en plus c'est un mystère extraordinaire, c'est de l'ordre du miracle. Ça, nous savons ça, mais alors le comment du miracle, et ce, nous ne le savons pas.
Et on le sait, par adhésion,
mieux nous savons qu'il y a un miracle, moins nous savons comment il a lieu.
Ah oui.
Et justement, ceux qui veulent raboter la chose, se donnent l'impression et l'illusion de mieux comprendre de quoi il s'agit. Du fait qu'ils sont beaucoup moins devant l'invensable.
Ah oui.
Voilà. Mais si on prend la foi telle qu'elle nous est donnée, on sait très bien ce qui se passe, mais on est complètement stupéfait de savoir que ça peut avoir lieu, et on ne voit pas du tout comment. Et quand on rompt le pain, ou plutôt quand on rompt le corps du Christ sous l'apparence du pain, autant de fois on le rompt, autant de fois le Christ est présent.
En totalité.
Oui, en totalité, de sorte que c'est pour ça qu'en chaque fraction de l'hostie, il est présent tout autant et qu'il peut être distribué à autant de personnes. C'est pour ça qu'on peut se permettre de rompre les hosties consacrées, autant qu'il est nécessaire pour que les communions communient.
Le corps du Christ était présent tout entier.
Tout entier, dans chacune des parcelles, dès qu'elle est rompue. Alors c'est pour ça que tu pourrais prendre des tonnes de kilos de pain, ça ne ferait pas plus de présence du Christ. Tu comprends ? Ça ne change rien de ce côté-là. Ça change du côté du signe, c'est pour ça qu'il est bon qu'on peut avoir l'instinct de boire largement le sang du Christ, une bonne rasade, n'est-ce pas, parce qu'on sent mieux passer le sang du Christ, mais alors c'est vraiment uniquement au plan de l'apparence, qui d'ailleurs compte, puisque c'est un signe. C'est un signe sensible, mais c'est un signe efficace. Je vous ai absolument pas, pratiquement pas parlé du signe aujourd'hui, je voulais parler de son efficacité. Mais il y a un côté de signe, où la séparation du corps et du sang signifie la mort du Christ, et où manger l'apparence du pain signifie manger le corps, et par conséquent, boire beaucoup de vin consacré, ça signifie boire beaucoup de sang, mais ça signifie, ça ne réalise pas. Comment ? Et du signe. Mais au point de vue de l'efficacité, c'est pareil qu'on en boive un peu ou beaucoup. Et même, là, communion sous les deux espèces n'ajoute rien au niveau de l'efficacité à la communion sous une seule espèce, parce que le sang est présent par concomitance avec dans le pain, ou dans l'apparence du pain, sous l'apparence du pain, et le corps se présent par concomitance sous l'apparence du vin. De sorte que ça n'ajoute qu'au niveau du signe.
J'ai été très très bouleversé il y a 12 ans,
oui,
là, par un
oui,
prêtre,
oui,
un prêtre brésilien qui apparemment était alors très très bien,
très pieux,
oui, dispersé,
rayonnant, oui.
Oui. Et qui m'avait expliqué, à l'époque où je cherchais beaucoup, ce que c'était que la communion. Je lui disais, mais alors la présence réelle, moi ça m'intéressait beaucoup que ce soit vrai.
Oui, oui.
Et lui me disait, oui, c'est vrai, mais quand plusieurs sont réunis, c'est la commune union.
C'est déjà, oui, c'est déjà la même chose.
Union.
Alors, voilà, donc le deuxième point que j'ai indiqué n'est pas réalisé, il n'y a pas besoin de prêtre.
Alors moi, ça m'avait complètement fait plaisir.
Il n'y a pas besoin d'un homme qui n'est pas comme les autres, qui a reçu le sacrement de l'ordre. Voilà, alors c'est toute la vaisselle est par terre, je le maintiens. Les deux premiers points que je vous ai dit, ça, c'est... Supposez que là, quand le Christ dit, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est vrai qu'on admette que c'est une présence privilégiée, autre que la présence d'immensité, aussi réelle et dense qu'on voudra, ça ne réclame pas un homme qui n'est pas comme les autres et qui reçoive le sacrement de l'ordre. Ce n'est pas la présence eucharistique. Et en particulier, alors là, ça voilà une précision capitale, le Christ m'apparaît en ce moment, en personne, d'une apparition vraie, d'une apparition pascale, comme il est apparu aux disciples en Galilée. Ben c'est très bien, c'est la présence réelle du Christ, mais c'est pas une présence telle que je puisse manger son corps. Tant que je ne suis pas glorifié moi-même, ce corps glorieux du Christ, je ne peux pas le manger. Sauf dans l'Eucharistie. C'est un César qui est génial, si j'ose dire, dans l'invention.
Par le mode qu'il a choisi.
Voilà, de la présence eucharistique. S'il n'y a pas la présence eucharistique, c'est pas une présence mangeable du corps du Christ. Présence réelle, si on veut, mais il faudrait même pas ad manucandum, pas pour être mangé. Et même les apôtres réunis dans le Cénacle ne pouvaient pas, n'étant pas glorifiés, manger le corps du Christ qui leur apparaissait. Ils ne le pouvaient qu'à la messe. Donc là, il n'y a pas d'histoire. Il est parmi nous, bien sûr, si on se rassemble, mais on ne peut pas le manger. Alors, il s'agit de savoir si ça nous intéresse, oui ou non, de le manger. C'est une question d'amour. Amen. Alléluia. Cette dernière précision, c'est peut-être la plus importante de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Parce que ça, je l'avais dit dans la lettre 24 et je l'ai oublié de vous le redire. C'est qu'il suffit pas qu'il y ait la présence réelle du Christ. Il faut que ce soit une présence réelle telle que je puisse le manger. C'est ça la définition de la présence eucharistique. Et que je puisse manger comme je mange du pain et à travers la figure de la mendication du pain. Qui est une figure efficace, un signe efficace de la mendication eschatologique du corps du Christ. Eh bien ça, même la Sainte Vierge ne pouvait pas le faire sans l'Eucharistie. Même la Sainte Vierge.
Le contact.
Avant la résurrection. Le contact physique.
La forme de l'Eucharistie. Le contact du Christ. Par exemple, sous forme que la femme
oui.
Hémorroïde,
ah oui, mais là, il n'était pas ressuscité. Hein. Je parle de la présence du Christ ressuscité, à Marie-Madeleine, par exemple. Mm-hmm. Hein. Mais la femme hémorroïde, la présence avant, non, sous tout ça, ça ne... on ne pouvait pas le manger.
Non, d'accord,
ni ressuscité, ni pas ressuscité, on ne pouvait pas le manger.
Le contact avec le Christ avait quand même un effet.
Oui, mais pas celui-là.
C'était pas du même ordre.
Ah, ben si, du même ordre, c'était un effet de grâce. Mais ce n'était pas l'incorporation à la gloire du corps glorieux. Ça, non. Ce n'était pas la constitution du corps mystique, l'assimilation et l'intégration dans la vigne qu'est Jésus. Toute grâce peut y aider, mais cet effet propre, là c'est l'effet propre de l'Eucharistie, et ça, je te répète, même la Sainte Vierge pouvait embrasser son fils, ressusciter ou pas, tant qu'elle voulait, de toutes ses forces, elle ne le mangeait pas. Sauf à la messe. Ou alors maintenant, elle le mange. Oui, dans le royaume des cieux. La parole de Dieu, ça, c'est pas pour des brunes. Voilà. Alors si on comprend ce que Dieu veut nous dire dans la parole, mais c'est quelqu'un qui te fait une déclaration d'amour. Ce que tu dois comprendre avant tout, c'est que c'est une déclaration d'amour. Si tu t'intéresses surtout au fait que la déclaration d'amour, elle a été faite en chinois, et si tu t'intéresses spécialement aux chinois à cause de ça, tu risques de dérailler, c'est pas le but. C'est pas parce que tu sais plus de chinois que tu comprends mieux la déclaration d'amour. C'est là où il faut faire attention entre la connaissance principale et les connaissances secondaires.